on va refaire une tentative. Oui, ça marche. Ça facilitera le travail des agents d'enregistrer le conseil. Et donc, je vous propose de commencer ce conseil immédiatement par l'appel. Monsieur Olivier Bonduel donc, a donné pouvoir à monsieur Marc Lerouzic. Madame Marie-France Bagarre a donné pouvoir à madame Janine Le Golvan. Monsieur Marc Lerouzic est présent. Madame Christine Lamandé. Monsieur Jean-Yves de Ripper. Madame Janine Le Golvan. Madame Françoise Le Pennec, je crois qu'elle est arrivée. Parfait. La municipalité de Saint-Colomban est donc représentée. Monsieur Charles Bietri est absent. Madame Marie-Vonne Belleuil. Monsieur Philippe Audeau a donné pouvoir à monsieur Pascal Lejean. Madame Catherine Isoard. Monsieur Patrick Lotodé. Madame Christine Desjardins a donné pouvoir à madame Sylvie Robineau. Monsieur Michel Durand, que l'on remercie d'être allé chercher la maire de Saint-Colomban. Merci Michel. Morgane Petit est absente. Monsieur Gérard Marc-Albert. Madame Karine Ledevéat a donné pouvoir à monsieur Paul Chapelle. Monsieur Hervé Le Donnant a donné pouvoir à Olivier Lepic. Madame Monique Thomas ne devrait pas tarder, mais elle est absente pour l'instant. Madame Armelle Moreau. Monsieur Jean-Luc Servet. Madame Nadine Rouet. Monsieur Pascal Lejean. Monsieur Loïc Coudois. Madame Sylvie Robineau. Monsieur Paul Chapelle. Et Olivier Lepic présent. Nous avons donc le quorum pour délibérer. Madame Le Pennec, vous acceptez d'être secrétaire de séance malgré votre arrivée tardive? Ça m'arrange. Merci beaucoup. Je vous propose donc de passer à l'ordre du jour de ce conseil municipal. On a positionné les interventions de Philippe en début parce qu'il a un conseil municipal à Plumergat. Et donc, on va commencer par l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 31 août 2008. Je m'excuse auprès de l'opposition. On a eu un petit problème de déclenchement de l'enregistrement qui a peut-être été à l'origine d'une mauvaise qualité de la première version. Mais je crois que ça a été corrigé cette semaine. Donc, cette version vous va bien? Parfait. Donc, je considère que ce procès-verbal est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. On passe au troisième point de l'ordre du jour, les comptes rendus des décisions du maire, donc, qui portent les numéros 86 à 96. J'imagine qu'il y a peut-être quelques questions sur ces décisions du maire. Pas de questions? Parfait. Philippe va être à Plumergat très tôt. Alors, nous sommes donc au quatrième point. Et donc, vous avez tous dans vos rapports de présentation trouvé ce très joli document qui est le rapport d'activité de notre intercommunalité depuis 2014. Et nous avons donc demandé au président qui a accepté de venir nous le présenter. Il n'y a pas de vote, évidemment, à l'issue de cette présentation. Vous serez évidemment, vous aurez tout loisir de poser les questions embarrassantes ou pas au président à l'issue de sa présentation, mais je suis sûr que vous serez attentif au fait de le recevoir avec l'élégance qui préside à ce genre d'exercice. Et puis Philippe, si tu en acceptes l'augure, eh bien on pourra également rester pour le rapport annuel sur la qualité des services publics, la gestion des déchets ménagers. Et assimiler, il y a rarement aussi des questions sur le sujet, mais voilà, c'est quand même des sujets... comment ? Ah, voilà Monique. Après la maire de Saint-Colomban, la maire de Beaumère, qui est donc présente. Je sais. Tu ne seras pas puni cette fois-ci. Parfait. Philippe, je te laisse la parole.
D'abord, merci Olivier, merci Monsieur le maire, merci de me recevoir à Carnac. C'est l'occasion pour moi de présenter assez rapidement la communauté de communes et surtout les activités, ce qui a été fait depuis 2014. Simplement vous dire, normalement, vous avez tous reçu le rapport. Alors, j'en ai pris toujours quelques-uns avec moi, parce que quelquefois, je l'ai vu dans certaines communes, des élus qui n'avaient pas reçu. Donc, eh bien, écoutez, c'est 10 euros, non, pardon. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que la communauté de communes, toute institution, toute collectivité, est une structure qui est un bien commun. Hein. Ce n'est pas que des élus, mais c'est d'abord une organisation pour une population. Et surtout, on voit que depuis quelques années, l'État se réorganise à une certaine vitesse. Les services déconcentrés de l'État parfois se retirent de certaines compétences. Et le législateur, progressivement, a confié des compétences, notamment la région, qui prend aujourd'hui une responsabilité importante dans tous les schémas de développement. j'allais dire, quelque part, à diminuer un petit peu les compétences du département, malheureusement, parce que pour nous, dans le Morbihan, c'est une vraie conséquence directe, puisque le département du Morbihan est pour habitude d'accompagner le développement, et surtout à renforcer le pôle des métropoles. Et je crois que c'est certainement là le grand virage, c'est que les métropoles, aujourd'hui, ont une puissance financière, une puissance d'action, et parallèlement, l'État a permis à ce que les territoires s'organisent davantage autour des communautés d'agglomération et communautés de communes. Alors c'est important d'avoir ça à l'esprit, parce que la communauté de communes, quelquefois, on lui reproche certaines choses, quelquefois, on identifie mal ce qu'elle fait, mais en fait, elle est toute jeune, puisque notre communauté de communes, digne de ce nom, avec les compétences qui lui ont été confiées dès 2014, est jeune, elle a simplement quelques années. Et vous voyez comment un mandat passe vite. Donc, on est à la fois en train de se structurer et en même temps exercer un certain nombre de compétences. Alors, je ne vais pas vous lister toutes les choses que vous pouvez déjà savoir. Simplement, vous rappeler que nous sommes 57 élus aujourd'hui. Nous étions 56. Donc, tout à l'heure, je crois que vous allez désigner un élu supplémentaire pour Carnac. Et jusqu'à maintenant, donc, siège Monique Thomas, qui est vice-présidente, et Olivier, votre maire, qui est présent donc, à chaque conseil communautaire. Alors, les compétences, juste vous rappeler ce qui est obligatoire, l'aménagement de l'espace. Alors, ce n'est pas neutre, hein, ça a des conséquences directes sur notre organisation de demain, le développement économique, notamment la promotion touristique qu'on nous a imposée. Alors, ce n'est pas le sujet le plus simple à mettre en œuvre. L'aménagement, l'entretien des aires d'accueil des gens du voyage, bon, c'est des sujets qui ne sont pas toujours les plus faciles non plus à gérer. Et la collecte et détraînement des déchets, dont on dira peut-être un petit mot tout à l'heure. Sur les compétences optionnelles, alors, elles sont optionnelles, c'est-à-dire qu'on doit choisir un certain nombre de compétences. On les a choisies, elles sont arrêtées, hein, donc mise en valeur de l'environnement, le logement, l'entretien et les voiries d'intérêt communautaire, c'est-à-dire exclusivement les voiries dans nos zones d'activité. Les actions sociales d'intérêt communautaire, notamment avec le volet insertion et la petite enfance. La distribution de l'eau potable et la création et gestion des maisons de services publics. Bon, ça, c'est un sujet qu'on a mis un petit peu de côté parce que faute de moyens. Et sur les compétences facultatives, c'est-à-dire c'est les compétences qu'on n'a pas obligation à prendre. On a fait le choix d'intégrer un certain nombre de politiques, notamment politiques culturelles et sportives d'intérêt communautaire, l'organisation des transports publics de voyageurs par délégation du département et de la région, et le sujet de l'assainissement. Tout de suite, vous dire que les compétences exercées par la communauté de communes aujourd'hui sont... on est largement en avance sur ce qu'impose la loi, et on a surtout beaucoup plus de compétences que nos voisins, notamment celles de la communauté d'agglomération de Vannes. Sur le développement économique, 36 parcs d'activité, hein, donc vous en connaissez bien entendu certains, avec beaucoup d'emplois dans ces parcs, avec pour objectif d'accueillir et d'accompagner les entreprises avec des lieux d'information, de conseil, d'écoute, de soutien. On a créé depuis quelques années l'atelier des entreprises où on a tous les partenaires sous le même toit. On a lancé les closeries de Plouarnel, d'ailleurs. N'hésitez pas à faire venir des jeunes entrepreneurs qui veulent s'installer dans cette écloserie. Il y a encore de la place. On souhaite aussi optimiser le foncier. On a vraiment une contrainte foncière sur le territoire. Vous le connaissez aussi bien que moi. Et puis, on lance pour 2019, donc le deuxième trimestre, la pépinière d'entreprise qui sera à la fois hôtel, pépinière, mais aussi accompagnement. Et on fera le lien avec l'atelier des entreprises. L'autre gros point... Et vous êtes directement concerné, c'est de favoriser l'accès au très haut débit. Alors, ça coûte excessivement cher. On fait partie d'un schéma breton. Rappelez aussi que les communautés de communes doivent financer une partie de ces prises, alors que les agglomérations voisines, Lorient et Vannes, n'ont pas les financer. Donc, c'est quand même une contrainte pour nous qui n'est pas neutre. On a investi jusqu'à aujourd'hui 7,3 millions d'euros. Et la première phase vous a directement concerné avec 1839 prises pour Carnac. Ce qui est prévu donc en deuxième phase, et ça fait partie du rapport d'activité puisque ça a été acté, on souhaite donc raccorder 25 000 habitations supplémentaires et des sociétés. On va investir 12 millions d'euros, ce qui est également extrêmement coûteux. Et pour Carnac, ce déploiement concerne une partie du centre-ville et 1272 prises sont identifiées en continuité des plans de Plouarnel et Plémel, permettant aussi la couverture des parcs d'activité de Bosséno et de Montauban. Promouvoir et diversifier l'offre touristique, donc avec la création de l'Office de tourisme communautaire, dont Carnac est actionnaire. Le schéma de développement touristique a été voté à l'unanimité pour 2018-2021. On souhaite et on investit au niveau du Golfe Saint-Laurent, qui est un équipement important, hein, 20 000 visiteurs par an, et le déploiement de réseaux des activités touristiques liées à l'eau. Donc on est site pilote sur le volet nautisme sur le Morbihan Sud. Sur les déplacements, le grand sujet, donc, c'est la gare. Hein. On va y mettre 19,5 millions d'euros. Ce sujet, il est vital. Hein. C'est un accélérateur économique. J'ai senti un consensus autour de ce projet, voire une unanimité. On lance également notre schéma directeur des pistes cyclables d'intérêt communautaire, avec les travaux qui sont en cours entre Pleurnel, Carnac, La Trinité, la mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'investissement qui a été co-construit avec les communes. Donc ce programme est arrêté et on lance la réflexion de l'axe Aurec-Quiberon. Si vous avez lu la presse ce matin, j'ai essayé d'exprimer que cet axe, il est vital pour désengorger la presqu'île, pour aussi aménager certainement un certain nombre d'équipements le long de cet axe et le rendre le plus économique possible. Alors je vais assez vite. Hein. Donc sur les autres sujets, donc les chantiers d'insertion, hein, donc, c'est un sujet important. On a quand même accueilli 215 personnes pour 270 chantiers réalisés depuis 2014. Et on a cette spécificité d'être, exemplaire, d'être reconnu sur les chantiers mégalithes. Et on est le seul chantier de ce type dans le département du Morbihan, reconnu bien sûr par la DRAC. Sur le volet eau assainissement, là également, depuis 2014, on a beaucoup investi. Il est également prévu d'autres investissements, notamment sur des communes que vous connaissez. Et pour résumer en quelques chiffres, sur Carnac, entre la réhabilitation et les extensions, on a depuis la création de la communauté de communes investi 3 281 000 euros. Sur les déchets, 6 déchetteries, 1 000 points d'apport volontaires, des composteurs, des poubelles, bien sûr. Et puis surtout, on a un schéma directeur que l'on souhaite adopter assez rapidement et puis relancer des travaux dans la déchetterie de Quiberon. On programme Carnac, alors il faudra certainement qu'on organise une réunion entre nos services et les services de la ville pour que sur le plan réglementaire, urbanistique, tout ça se passe au mieux. En tout cas, on a prévu de restaurer cette déchetterie, c'est pas un luxe.
Et pour le foncier à acquérir, il ne devrait pas y avoir de problème, puisque vous parlez avec les propriétaires.
D'accord.
Ils sont dans les parties blocs et prêts à céder.
Voilà. Et donc, deux sujets qui ne sont pas simples, c'est Watt et Dick. Créer des déchetteries à Watt et Dick, j'étais encore hier avec les deux maires des îles. C'est pas une mince affaire, mais c'est indispensable parce que vous ne pouvez pas faire de la politique d'attractivité si derrière, quand vous arrivez à Edic ou à Watt, vous avez des dépôts sauvages un peu partout. Le volet de transition énergétique, on a hérité donc par la loi du plan climat air énergie territoriale. On le prend positivement parce qu'on a lancé un certain nombre d'actions, notamment avec la mise en place d'une stratégie solaire. On va mettre du solaire notamment sur la piscine, mais on va référencer tous les sites qui peuvent accueillir du solaire sur la communauté de communes, autant dans des sites d'entreprises, mais aussi chez des particuliers, chez des professionnels, dans les collectivités. Enfin, on a tout un point qui est lancé, également sur le gaz naturel pour les véhicules, pour les entreprises. Et surtout, on apporte une ingénierie gratuite aux communes qui le souhaitent, notamment sur le conseil en énergie partagée. Le logement, c'est un grand point. On a fait le choix d'avoir un PLH volontariste. On met 13 millions d'euros depuis la création. Alors, c'est marqué 2016-2021, mais ça a été acté assez vite. C'était en 2015 qu'on avait acté le programme. On aide à l'acquisition foncière, on aide au logement social et à l'hébergement. Mais surtout, on a créé la maison du logement, qui est un guichet unique pour accompagner financièrement, techniquement, administrativement les gens qui habitent sur le territoire d'ACTA. On a passé la barre des 10 000 foyers accompagnés, ce qui est quand même très conséquent. Et ça a permis de mobiliser 350 entreprises sur cette dynamique. Et on a été capté 3,6 millions d'euros de subventions à l'extérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas des fonds d'ACTA, mais c'est des fonds qu'on a été chercher soit à la région, soit au département, soit surtout à l'État, pour favoriser la rénovation notamment de certaines maisons. On a une plateforme de rénovation énergétique donc, où on associe les entreprises et les secteurs bancaires. Quelquefois, on va jusqu'au contact avec les banques. On a rencontré les banques, elles sont plutôt positives sur ces sujets. le sport et la culture, on a un fonds de soutien, on est aussi sur une logique de chantier d'insertion, je vais passer assez rapidement. On a le centre aquatique Alréo, j'ai rencontré d'ailleurs des habitants de Carnac dans ce centre. Donc, ce centre est vraiment fréquenté, on est la deuxième piscine du Morbihan, on doit frôler les 240 000 entrées, donc ce qui est bien. On lance la mise en réseau des médiathèques avec un certain nombre de questionnements qui sont arrivés. Là. Donc, on avait acté un certain nombre de points, mais je pense que demain, au conseil communautaire, je vais demander qu'on retravaille notamment avec la ville-centre, qui pose un certain nombre de questions. Ensuite, étude de faisabilité d'une salle de gymnastique. Donc là, c'est un peu notre serpent de mer. On a beaucoup de mal à sortir une salle qui s'appelle la salle du PLA, mais en fait, c'est d'abord une salle de gymnastique intercommunale qui faisait partie de nos statuts à la fusion. J'espère qu'on va pouvoir enfin arrêter un terrain, parce qu'on a dû arrêter 3, 4, 5 terrains. Et le dernier terrain en question a été remis en cause. Bon, bref, pour des raisons que je peux comprendre, mais qui nous mettent aussi en difficulté au niveau de la communauté de communes. Et la création de nos nouveaux parcours VTT, avec des parcours que vous avez déjà pratiqués, et d'autres qui sont à venir. Et bien sûr, tout ça en lien avec les communes. Sur la petite enfance, sujet qui vous touche ici directement, donc on va rentrer dans une logique, c'est le slide suivant, donc de RAM et de LAEP communautaire. On gère des multi-accueils en direct, ou en tout cas on en a la responsabilité. On a transféré donc de Saint-Philibert à Plémel le lieu d'accueil enfants-parents. On a aussi un certain nombre de subventions de la CAF et de la MSA pour notre service petite enfance. Et surtout, on permet aux assistants maternels du territoire de bénéficier un peu de ces services. Voilà. On a aussi un observatoire, ce qui permet d'être plus réactif. Et sur le plan financier, quelques chiffres. D'abord, les taux. On n'a pas augmenté les impôts entre 2014 et 2017. On a fait le choix de les augmenter récemment. Tout simplement pour financer le gros paquet qui est la fibre, hein, qui est un service supplémentaire. Je sais que c'est un sujet qui crée souvent de la polémique lorsqu'on touche au volet finance et au volet impôt. Ce que j'essaye d'expliquer posément aux habitants qui vont bénéficier de la fibre, c'est que ça donne une valeur à leur patrimoine. Si vous avez de la fibre, si en plus vous avez du transport et des services publics à côté, votre patrimoine prend de la valeur. Enfin, c'est aussi simplement les choses que cela. Concernant nos rapports avec la ville, vous avez une attribution de compensation de 2,8 millions, hein, qui n'a pas évolué depuis quelques années. Bon, c'est l'historique, en fait, hein, des comptes des uns et des autres. Lorsqu'il y a eu les transferts, tout ça a été fait donc, à la création de la communauté de communes. Sur les comptes administratifs consolidés, donc vous avez des chiffres, ils sont tous dans le rapport, donc je veux bien répondre à quelques questions. Un autre point important, le slide suivant, c'est qu'on a désendetté la communauté de communes. À l'origine, nous étions à 46 millions d'endettement, et aujourd'hui, on est à peu près à 35 millions d'endettement globalisé, ce qui est plutôt encourageant pour la suite, et ça se confirme notamment avec les ratios que nous demande de respecter l'État aujourd'hui. Donc, slide suivant. Où au lieu de les normes sont encadrées donc à partir de 12 ans, nous on a un respect des objectifs fixés par l'État de capacité de désendettement qui tourne autour de 3 ans depuis la création de la communauté de communes. Donc des finances saines, mais un équilibre financier qui peut vite partir malheureusement par rapport aux investissements à venir. On a fait un PPI, on finance notre PPI. Mais à chaque fois qu'on apportera un service supplémentaire, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de la troisième tranche, parce qu'on va arriver assez vite, en tout cas, moi, je fais en sorte qu'on accélère cette troisième tranche. J'ai eu l'occasion de discuter avec nos amis de la région, du département, pour qu'il y ait aussi une équité entre les habitants du territoire. Peut-être qu'on regardera à nouveau cette notion de fiscalité. Mais on fléchera, alors en théorie, on peut le faire, mais on la fléchera vers ce service supplémentaire. Voilà, rapidement présenté la Bible. Elle est très agréable à lire, pour ceux qui ont commencé. Vous avez beaucoup de chiffres. On les a résumés par enjeu, parce qu'on a des orientations, des choix qui ont été faits. Vous dire également qu'au niveau de la communauté de communes, je pense qu'on réussit le pari de porter des projets qui sont importants. Et puis surtout, je trouve qu'il y a une ambiance qui n'a pas toujours été ça, mais qui est plutôt franche et saine. Quelquefois, c'est comme dans un coin. conseil municipal, ça peut tirer un peu des maillots, comme on dit, mais les sujets sont vus et revus. On organise des séminaires, par exemple, on va organiser un séminaire sur la GEMAPI à nouveau, parce que c'est un sujet qui est très important, puisque ça va toucher aussi au portefeuille des habitants, puisque l'État nous impose un certain nombre de contraintes sur la gestion des milieux, sur la protection des inondations. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on le fasse à moindre coût et qu'on n'aille pas chercher cet argent chez le contribuable. Donc, il faudra qu'on voit aussi avec les communes comment on gère au mieux ces sujets. Et dès qu'on a des choix à faire, on organise des séminaires pour discuter. En plus, en bureau communautaire, les maires sont systématiquement invités. Ce n'était pas le cas au début. J'ai peut-être fait cette erreur de ne pas les inviter au début parce que je considère qu'à 30, c'est un peu compliqué. On organisait donc des conférences mensuelles, mais dans ces conférences mensuelles, on n'était pas forcément au cœur du quotidien de chaque sujet. Et le fait de le faire en bureau, ça permet très librement, sans la presse, que je salue au passage, de discuter quelquefois à huis clos de sujets qui quelquefois en conseil communautaire, ne sont pas forcément faciles à aborder. Voilà, je réponds à vos questions.
Merci Philippe. Est-ce qu'il y a des questions sur ce bilan 2014-2017 de l'intercommunalité? Je t'avais dit qu'il était très sage. Tu pourrais repartir rapidement. Pas de questions?
Ceci dit, si vous souhaitez un jour avoir des... je veux bien revenir ou faire venir quelqu'un de notre administration pour répondre en commission. Voilà.
Juste un petit mot, on est aussi, comme Philippe, très soucieux des équilibres financiers. On a, je pense qu'il faut être transparent, ça nous arrive d'avoir des divergences avec Philippe, hein, mais Philippe est le président légitime et il travaille beaucoup à l'intercommunalité. Carnac est aussi le principal financeur d'ACTA, hein, les contribuables carnacois, donc on en est fiers d'ailleurs, hein, c'est un motif de fierté pour la commune. Et on essaye aussi au maximum de... Je prends l'exemple des travaux sur le renforcement du trait de côte. Voilà, on a décidé de les financer on aurait pu facilement dire ben voilà, on va c'est GEMAPI, on va attendre, on va le faire. Non, enfin, on a souhaité le financer. Donc, quand on peut aussi remplir notre part de pour des choses qui sont vraiment urgentes, et on a travaillé sur ces questions-là, d'ailleurs en parfaite harmonie avec les services d'ACTA. Et moi, je me réjouis qu'on puisse voilà au moins combler cette brèche assez rapidement. Parce que, encore une fois, même si son existence est parfaitement théorique et même totalement contestable d'un point de vue scientifique, il ne pourra pas être reproché ni à l'intercommunalité ni à la commune de ne pas avoir fait au plus vite ces travaux. Et comme ils sont finançables par la commune, parce que leur montant est relativement modeste, même si ça reste 400 000 euros quand même, hein, donc c'est aussi quelque chose que la commune a souhaité faire. Et je dois dire autre chose, et encore une fois, on n'est pas toujours d'accord. L'État met souvent les collectivités et les intercommunalités en particulier dans des situations d'une complexité délirante. Parce que, vous le savez, l'État impose aux collectivités un certain nombre de contraintes qu'il ne s'impose pas à lui-même, que ce soit en termes d'économie. On le voit en ce moment, et je pense qu'il va y avoir un congrès des maires qui va être encore un petit peu agité. L'État met fin à un certain nombre de services qu'elle bascule soit dans les intercommunalités, soit dans les communes, hein, je prends les passeports, les cartes d'identité, et ne nous donne pas, ni à l'interco, ni à la commune, les ressources correspondantes. Et donc, dans certains dossiers, effectivement, on se retrouve à devoir gérer des compétences pour lesquelles le financement est soit pas complet, soit aléatoire, avec des coûts qui explosent. Je pense que GEMAPI, c'est un vrai défi, hein, on le sait tous, on va vers, et il y a des problématiques encore plus importantes sur le territoire, je pense à l'isthme de Penthièvre, avec des coûts absolument pharaoniques, et tout ça, c'est pas acceptable très très longtemps. Autant on peut accepter que l'État impose aux communes et aux collectivités de faire des efforts, on a une dette publique monumentale, et les collectivités sont globalement moins endettées que l'État, mais il n'est pas acceptable que l'État ne s'impose pas à lui-même ce qu'il impose aux collectivités territoriales. Donc c'est pas toujours facile. On a choisi de garder à Carnac un certain nombre de compétences qu'on n'a pas transférées à ACTA. On s'en est expliqué, ce conseil municipal en a débattu, et je je redis ma volonté, notamment dans le tourisme, hein, de travailler un petit peu plus en coopération qu'on l'a fait aujourd'hui, parce que même si on a choisi de garder la compétence, on a la chance d'avoir des moyens, et j'ai proposé à plusieurs reprises à Bernard, hein, de cofinancer certaines choses, et je redis cette volonté de cofinancer et de travailler ensemble, parce que même si Carnac a choisi de garder la compétence, aujourd'hui on vend un territoire qui est celui de l'intercommunalité. On a la chance d'ailleurs d'avoir comme le disait la présentation, un des plus beaux territoires touristiques de Bretagne et peut-être de France. Hein. Le jour où on aura peut-être intégré les îles, ce sera là, je pense que personne ne contestera ce titre. Et donc c'est tout le territoire qu'il faut vendre. Et encore une fois, même si on a choisi vraiment de garder la compétence, je crois qu'il faut, il faut qu'on essaye de travailler ensemble plus qu'on le fait aujourd'hui. Voilà. Donc, et moi, je le réitère en ta présence, si on peut trouver des moyens de contribuer financièrement à un certain nombre d'actions touristiques à l'échelle du territoire, Carnac est prêt à le faire.
Voilà. Merci, je l'entends bien. Juste pour réagir sur les sujets entre l'État, le rapport entre l'État, les communes, les collectivités, il faut simplement se dire que c'est que le maire prend des responsabilités, a la responsabilité, notamment sur les inondations, je crois que c'est 2023 ou 2024, et la communauté de communes a une obligation de moyens. C'est-à-dire qu'on a une obligation de mettre les moyens à disposition des communes pour aboutir à ce qu'ils exigent de nous, dans ce domaine-là comme dans d'autres. Effectivement, quand l'État se retire, parce qu'on peut parler aussi de l'instruction des droits du sol, c'est un coût supplémentaire pour les communes. Voilà, on a su aussi s'adapter. Et en tout cas, on gagne, et en tout cas, c'est aussi le sens de chaque intervention qu'on peut avoir, on gagne à coopérer, à travailler ensemble. Et parfois, il y a des étapes qu'il ne faut pas cramer, il faut mettre le temps d'apprendre et de se respecter. Et je dis globalement, les premières années, on peut sortir là sur 2018 avec plutôt des relations de travail saines. On apprend à travailler encore plus ensemble avec les communes sur des sujets extrêmement divers. Parce que si vous êtes à Ouatédic ou à Camor, il n'y a pas forcément les mêmes sujets à aborder. Et alors, Carnac, c'est pareil, on a des sujets qui reviennent de temps en temps, notamment les déchets. J'imagine que vous allez en parler un petit peu.
Oui, les déchets, ça. Le seul sujet aujourd'hui sur les déchets, enfin, en dehors de la politique, je dirais, et de la vision stratégique d'ACTA sur le sujet du maire, c'est des trucs très terre-à-terre, comme la déchetterie est trop petite, je fais trop la queue à la déchetterie, c'est dangereux, enfin voilà, c'est du quotidien. Aujourd'hui, je dirais, la première chose qu'on nous demande, c'est vraiment de l'agrandir, parce que c'est vrai que l'été, on a un afflux de population qui fait qu'à certains moments de la journée, cette infrastructure est un petit peu sous-dimensionnée. Après, je pense que si on est un petit peu malin et qu'on va aux heures, si on se lève tôt le matin et on y va un peu tôt le soir, ça fonctionne. Mais c'est vrai que voilà, moi je suis ravi qu'elle soit dans les deux ou trois prochaines déchetteries à gérer. Pour le reste, chacun peut avoir son opinion sur la ROM, la TOM, sur l'incinérateur, pas l'incinérateur. Est-ce que on trie suffisamment sur le territoire? On trie jamais assez. Mais ça, ce sont des problématiques qui sont, à mon sens, qui ont vocation totalement à être autant, voilà, pour un certain nombre de compétences, je l'ai dit à Philippe, j'estime qu'un certain nombre de compétences qui sont des compétences de proximité avec nos concitoyens devraient, à mon sens, rester dans les communes. Par contre, il y a des compétences qui nécessitent un outil industriel, qui nécessitent une gestion à l'échelle d'un territoire. Il est certain que les eaux, les ordures ménagères, tout ça, c'est pas les communes qui peuvent gérer ça plus efficacement qu'une intercommunalité. En revanche, voilà, idem pour l'urbanisme, hein, c'est aussi pour cette raison, parce qu'on est le premier contributeur d'actes d'urbanisme de l'intercommunalité, et c'est vrai que ce sont des sujets qui sont extrêmement sensibles dans une commune comme la mienne, et on a souhaité effectivement, garder cette proximité avec la décision sur le citoyen. On est en train de mettre en œuvre une AVAP, hein, pour essayer de protéger définitivement l'urbanisme de la commune. Alors ça ne veut pas dire qu'un jour on transférera, hein, idem pour le tourisme d'ailleurs, hein, on n'est pas bloqué sur ce schéma. Mais encore une fois, voilà, je pense que les décisions du quotidien, c'est bien qu'elles restent proche, même si je sais qu'un citoyen d'ACTA peut avoir rendez-vous avec Philippe Leray, hein, mais c'est vrai que c'est plus facile de voir l'adjoint à l'URBA, l'adjoint au sport, ou même son maire dans une commune ou dans une petite commune. J'imagine que tu reçois aussi à Plumergat. Et c'est pour ça que voilà, ces compétences de proximité, je pense qu'elles sont plus facilement exercées quand elles sont proches du concitoyen. Pour le reste, évidemment, c'est totalement nécessaire d'avoir transféré les grandes compétences régaliennes d'un territoire à une structure intercommunale. Avant de passer aux ordures ménagères, est-ce qu'il n'y a donc pas d'autres questions? Donc on ne vote pas, hein, je vous le répète sur ce rapport de présentation. On en prend acte et je remercie Philippe pour sa présentation très complète. Vous avez tous pu consulter le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public, hein, donc qui traite de la gestion des déchets ménagers et assimilés. Toujours très intéressant, évidemment, de parcourir ce document. Moi, je suis toujours très curieux de mesurer l'évolution, que ce soit des tonnages, que ce soit sur la commune, mais sur les autres communes, et de voir qu'ils continuent de progresser. C'est vrai que c'est quelque chose de stratégique pour un territoire. Je vois aussi les sacs jaunes, hein, qui rencontrent un très grand succès, puisque les budgets, là aussi, augmentent, quasiment doublé l'année dernière. Voilà, ce sont des politiques industrielles où on est plus efficace à plusieurs, c'est sûr. Moi, j'ai des convictions personnelles. Hein, on a eu l'occasion, on a commencé à discuter ici dans ce conseil, hein, de la TOM ou de la ROM. On a aussi parlé en conseil communautaire. Je crois, Philippe, que tu as annoncé à terme la fermeture de l'incinérateur. Une décision que je soutiens tout à fait. Après, voilà, c'est quelque chose dans lequel il faut du temps, mais c'est vrai que moi, j'aimerais bien qu'on soit vraiment un territoire exemplaire parce qu'on est balnéaire, parce qu'on est touristique. C'est vrai que ça prendra du temps, mais si on pouvait se fixer des objectifs vraiment ambitieux en termes de traitement, de recyclage, on commence, mais c'est vrai que le chantier est énorme. Hein, c'est vraiment un domaine dans lequel je pense que le territoire vraiment gagnerait à être vraiment exemplaire, même si, encore une fois, c'est très long. Parce que quand on a un outil industriel, comme beaucoup de gens ont appelé à la fermeture de l'incinérateur, sauf qu'un truc comme ça, ça ne se ferme pas du jour au lendemain, vous pouvez bien l'imaginer. Hein. Et puis il y a un marché, on est tenu par un marché public, et puis effectivement, si vous fermez un incinérateur, il vous faut une solution, un plan B pour pouvoir voilà. Donc s'il y a des questions sur la politique de l'intercommunalité, évidemment profitez de la présence du président. Je pense qu'à Carnac, on n'a pas de grief particulier, que ce soit en termes de ramassage, mais on est à peu près dans un dispositif qui nous convient parfaitement. La déchetterie, elle mériterait d'être agrandie, c'est dans les tuyaux. Pour le reste, évidemment, ça, tu l'entends aussi, nos concitoyens se plaignent un petit peu à Carnac de la turbidité de l'eau, souvent, et notamment l'été, mais ça, je leur explique, on a une région avec des conditions géologiques un peu particulières, hein. On est sur du granit. On n'a pas que la tête dure, on a aussi le sol et qu'on n'a pas de nappe phréatique. Et comme on n'a pas de nappe phréatique, on a quelques endroits où l'eau est stockée. Et évidemment, à la fin de l'été, les niveaux d'eau baissant, on a de la turbidité un peu plus importante. Alors j'ai eu quelques plaintes cet été, mais vraiment, enfin, comme tous les étés. Mais voilà, une fois qu'on explique aux gens pourquoi, que l'eau est tout à fait physico-chimiquement consommable et qu'il n'y a aucun problème de santé publique, ils comprennent. Mais voilà, souvent, on a des petites réflexions là-dessus. Pour le reste, voilà, pour les ordures ménagères, je ne sais pas si des conseillers ont des remarques, mais voilà, ça fonctionne plutôt bien. Et il n'y a pas de problème structurel. Marc, une question ? Ton micro, Marc.
Les déchets sont dirigés vers quel centre d'enfouissement ?
D'abord, dans le projet qu'on est en train de travailler avec à la fois les élus, mais aussi les associations et avec la région, on souhaite déjà mieux valoriser nos déchets. Donc on va aller encore plus loin dans le tri, on va passer à un stade supplémentaire ça ne sera pas tout à fait simple parce qu'il va falloir beaucoup de pédagogie sur les secteurs très touristiques et ça sera aussi un travail de proximité à faire, faire en sorte qu'on trie davantage, qu'on valorise davantage. Ensuite, sur toute la partie fermentée cible, il est prévu de travailler également avec la région, mais surtout avec nos voisins, pour imaginer un concept de, alors je ne dis pas de méthanisation parce que c'est un peu plus compliqué que ça, mais de valorisation de cette partie organique pour produire de l'énergie, sans doute sur le site de Plornel, en lien avec d'autres territoires, et sur la partie qui n'est pas valorisable. Alors, il y a une partie qui n'est pas valorisable. On est en pleine réflexion, puisque le schéma régional ne nous poussera pas à enfouir. Je dis même que la loi de transition énergétique mettra des contraintes à l'enfouissement. Donc, c'est cette partie-là qu'on est en train de réfléchir pour produire une matière qui ne serait pas valorisée sur le territoire, mais qui serait valorisée par des industriels, j'allais dire, de la région. Voilà. Donc, je trouve ça plutôt intelligent. On risque de récupérer un peu de matière d'ailleurs, mais on risque d'envoyer une partie de notre matière ailleurs. En fait, on va spécialiser les sites. Là, c'est un peu cette logique. Et pour tout vous dire, on le fait volontairement, mais en même temps, on n'aura peut-être pas trop le choix, puisque les fonds de l'ADEME et les fonds de la région de soutien iront plutôt dans ce sens-là. Donc on le prend plutôt bien. Et nos relations avec la région, notamment avec Thierry Burlot, sont excellentes là-dessus. Donc on est vraiment sur cette étape-là. Voilà. Et la fermeture de l'incinérateur, alors j'ai une date en tête, mais je ne peux pas la rendre publique.
Ça ne dira rien. Pour...
mais ça va être assez rapide quand même. Hein. Voilà. Ça va être assez rapide, puisqu'on n'a pas pu le faire avant, pour plein de raisons, ce que vient de soulever Olivier, mais également, on est lié par des contrats, où il y a aussi des personnes qui travaillent sur ce site, et on s'est engagé avec ce que ces personnes soient quelque part gardées, mais pour travailler sur d'autres métiers de valorisation. Voilà.
Okay. Et combien de salariés, hein ?
J'ai plus le nombre, je crois que c'est une quinzaine, mais je dirais peut-être une bêtise, je vais dire entre 10 et 20, mais je crois que c'est autour d'une quinzaine. Et donc, leurs métiers vont changer. Donc, moi, je les ai aussi rassurés parce qu'on peut valoriser beaucoup de choses. Beaucoup plus de choses que ce qu'on peut imaginer. Voilà.
Parfait. Bien. Merci.
Pas d'autres Parfait. Donc nous continuons donc l'ordre du jour de ce conseil municipal, toujours au sujet d'ACTA, puisque le rapport suivant a trait à l'élection d'un conseiller communautaire supplémentaire, donc qui nous a été attribué à la commune suite à la délibération du conseil communautaire du 22 juin 2018. Alors l'élection de ce conseil communautaire devrait théoriquement se faire à bulletin secret, c'est ce que prévoit le règlement de la commune, mais le règlement des collectivités territoriales, si l'unanimité effectivement du conseil est d'accord, peut se faire aussi à main levée. Donc est-ce que vous voyez un problème à ce que nous le fassions à main levée? Non? Ça permettra de gagner du temps. Comment? Non, c'est l'unanimité pour décider de voter à main levée.
Oui,
ça n'a rien à voir.
Vous avez tout mis sur le même bordereau.
C'est pareil. C'est pas un problème. Bon, ça vous pose un problème de voter à main levée ou pas? C'est un secret. On va perdre juste 10 minutes pour le même résultat. Donc, c'est comme vous voulez. Mais le règlement des collectivités territoriales permet de voter à main levée. Bon, oui ou non, soyez simple. Enfin, moi, je m'en fous, c'est pas un problème. Donc, on vote à main levée? Allez, on vote à main levée. Est-ce qu'il y a d'abord des candidats? Monsieur Chapelle, quelle surprise. Candidat, c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Pas d'autres candidats? Ça va rendre les choses encore plus faciles. Donc, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? cette désignation? Est-ce qu'il y a des abstentions? Parfait. Est-ce qu'il y a des votes pour? Je vous remercie. Monsieur Chapelle, vous êtes délégué, vous êtes conseiller communautaire depuis 5 secondes. Vous étiez déjà très impliqué sur le plan, le PLH notamment. Et donc je pense que vous allez continuer votre action. Enfin, tu vas continuer ton action. Et demain, le président m'a confirmé que tu pouvais siéger en spectateur, mais sans possibilité de voter. Voilà. Parfait. Je vous remercie. On passe, monsieur Lejean, rapport numéro 7, décision modificative numéro 1.
Tout à fait. Donc, c'est la décision modificative du budget numéro 1. Donc, vous avez tous les documents. Donc, il s'agit, dans le budget de fonctionnement, de 26 120 euros en dépenses et en recettes de fonctionnement. Et dans le budget d'investissement, 37 300 euros en termes de dépenses et de recettes. Avez-vous des questions?
Ah, Sudeuil perd le micro.
Les 95 000 euros de frais financiers supplémentaires correspondent à quoi?
Vous le savez, c'est le remboursement du solde de l'IRA.
Alors, il faut éteindre le micro. Pas d'autres questions?
Sur le...
Alors, en ce moment, il faut leur rallumer le micro, alors.
Sur les recettes et dépenses de fonctionnement, non.
D'accord. Sur les dépenses d'investissement, sans doute? Monsieur Lejean, vous avez quelque chose à dire sur l'investissement?
Oui, non, j'ai expliqué la modification du budget, la question, pour les deux.
Quel est l'intérêt de créer des sous-comptes?
C'est que c'est obligatoire suite aux autorisations de programme.
Parfait. Pas d'autres questions. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre cette décision modificative numéro 1? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Très rapidement, puisqu'on a déjà discuté et ce projet sera amené à être présenté en commission urbanisme, il s'agit d'un rapport sur... Il consiste à autoriser le maire ou l'adjoint délégué à déposer le permis de construire pour la construction du bâtiment modulaire que nous allons donc édifier, salle du Ménec. Le permis de construire devrait être déposé, je pense, dans les... Comment ? Salonisme, pardon. Excuse-moi. Ce permis sera donc présenté à la commission d'urbanisme et éventuellement d'ailleurs présenté en conseil municipal ultérieurement. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cette autorisation donnée au maire sur le permis de construire? Pas de questions? Pas de vote contre? Pas d'abstention? Unanimité. Je vous remercie. Monsieur Lejean, rapport numéro 9, l'emprunt au GEC et la garantie communale.
Tout à fait. Donc, le GEC avait un emprunt sur une banque locale qui a redécidé de renégocier cet emprunt pour faire baisser les taux et en a profité pour refaire quelques investissements. Donc, il nous demande, puisque sur le premier emprunt qui était de 250 000 euros, nous avions garanti cet emprunt à la hauteur de 50%. C'est le maximum que la collectivité peut faire pour ce genre de garantie. Donc, nous avons été sollicités pour garantir le nouvel emprunt de 275 000 euros, donc à la hauteur de 50%, pour 137 500 euros. La commission a donné un avis favorable.
Question sur cette garantie communale? Pas de question? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Unanimité. Je vous remercie. Monsieur Marc Albert, acquisition d'une parcelle de 23 560 mètres carrés au profit de la commune.
Voilà, après plusieurs rendez-vous avec Monsieur Padeloup, on s'est mis d'accord sur un prix de 96 000 euros pour une parcelle, donc vous disiez, de 23 576 mètres carrés, sur lequel il y a deux bâtiments, un qu'on voit bien et un qui est juste à droite qui a collé une maison. Donc, on va essayer de faire un plan d'aménagement là-dessus. Un compromis sera signé avec M. Padeloup avec les conditions suspensives qui sera d'avoir le permis d'aménager. Et une fois qu'on aura tout ça, on pourra faire l'acte et puis on avancera sur le dossier.
Il y a évidemment deux principales raisons à l'acquisition de cette réserve foncière. Hein. Tout le monde voit à peu près où il se situe. Hein. C'est les anciens Ténis de Kerabus. Deux raisons. D'abord, effectivement, la réserve foncière. Deuxième raison, c'est la volonté de désengorger. Vous savez que cet espace est au nord des alignements. Et donc, et d'ailleurs, on en avait parlé, il y a vraiment un problème de parking autour des alignements. Et on a eu une réflexion avec l'architecte des bâtiments de France et puis la DRAC pour se positionner sur ce terrain pour éventuellement réaliser un parking de délestage qui serait évidemment probablement jamais bitumé, mais qui permettrait en amont et au nord des alignements eh bien, de pouvoir permettre à un certain nombre de visiteurs de stationner à cet endroit, de se diriger ensuite à pied vers le cheminement nord qui existe aujourd'hui, et également une possibilité de réaliser une aire de camping-car, ce qui permettrait de fermer définitivement la place Hillertissen à ces camping-cars, puisque en disposant d'une aire, encore une fois, en respectant les conditions qui nous seront imposées par la DDTM, la DRAC et les bâtiments de France, et bien d'avoir une aire dans laquelle les camping-cars pourraient séjourner, évidemment si possible en payant une partie de leur séjour, hein, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'il était un cas théorique aujourd'hui, place Hillertissen, et surtout soulager cet espace dont beaucoup de riverains nous disent que cette multiplication des camping-cars est vraiment un problème pour cette partie de la ville. Monsieur de Ripper.
On a toujours dit qu'on était favorable à ce que les camping-cars ne continuent pas à stationner sur la place Hillertissen, donc essayer de trouver une solution, on est tout à fait d'accord, mais ce terrain... Ce terrain est situé dans un zonage NME qui subit quand même des contraintes très importantes, puisque en fait il est situé dans la zone de protection des alignements. En ce qui concerne l'aire de camping-car, ça paraît tout à fait contraire au règlement, et ça va être, je pense, hein, je ne sais pas si c'est judicieux de l'envisager, mais ça va être, je pense, assez difficile de prévoir une aire de camping-car à cet endroit-là.
Oui, non, mais c'est bien, cette remarque est parfaitement pertinente. Et avant de, même si ce projet ne se réalisait pas, de toute façon, cette acquisition est intéressante pour la commune d'un point de vue stratégique. Et par ailleurs, nous avons déjà eu des discussions préliminaires avec les administrations sur la faisabilité de la chose. Et aujourd'hui, rien ne semble impossible.
Par contre, pour l'aménagement d'une aire liée au stationnement des voitures, il n'y a pas de souci, puisque les mégalithes nécessitent des emplacements pour les voitures. Ça, c'est lié à l'activité du site. Donc, y a pas de
je vous rappelle qu'il y a un camping qui juxte cet aménagement. Oh, bah, il touche.
Il a acheté une partie du terrain.
Il touche. Et par ailleurs, mais M. de Ripper a parfaitement raison, il y aura un certain nombre de contraintes, mais qui aujourd'hui ne sont pas insurmontables. Évidemment, on a eu évidemment le même réflexe, hein, et vous avez vu aussi que cette acquisition se fera si les préventions ont été levées. Donc toutes les garanties ont été mises sur la table pour préserver la commune. Mais par ailleurs, je pense que c'est à ce prix-là, 23 000 m2, voilà, on a tellement reproché à la commune de ne pas faire de réserve foncière. En plus, c'est une réserve foncière qui, effectivement, est très proche des mégalithes. Que ce soit à titre de la protection, à titre paysager ou à titre d'une future zone de loisirs. Enfin, je pense que la commune ne fera pas une mauvaise affaire en acquérant 23 000 m2 à ce prix-là. Ouais.
Pour rappel, ce terrain a déjà été envisagé d'être acheté par la commune, hein, à votre époque, Madame Le Golvent, et pour des raisons, ça n'avait pas pu aboutir, donc on n'a fait que suivre la démarche qui avait été faite au départ, effectivement, puisqu'il était intéressant de récupérer cette zone. Jusque, voilà.
Et on peut se féliciter que les propriétaires sont maintenant un peu moins gourmands qu'ils l'étaient à l'époque. Puisqu'à l'époque, je crois que c'était dans les 320 000 ou 340 000. Voilà. Voilà.
Parce que bien sûr, je suis favorable, et en plus, on a parlé des stationnements, donc là-dessus, je pense qu'on n'aura pas de problème à avoir le permis d'aménager, en tout cas pour les parkings. Par contre, moi, il y a des choses qui m'interrogent. Le CMN, eux font des travaux, on est partenaire. C'est vrai, jusqu'ici, on a voté plusieurs fois où on participe à la réflexion des parkings.
Remarque, la commune participe, c'est vrai, mais quand on prend l'exemple du cheminement nord, la participation de la commune a été quand même très minime. Hein, donc c'est essentiellement l'État et le département qui sont les financeurs. On a une coopération, Pascal pourra en parler, extrêmement étroite avec CMN. Hein, d'ailleurs, au passage, vous le savez sans doute, mais on va changer de... Monsieur Buisson-Catil a été nommé à Azel Rideau et donc va quitter Carnac dans les semaines qui viennent. On a une coopération qui est excellente, hein, que ce soit sur Skedanos ou sur d'autres projets, et on peut parfaitement envisager de conventionner un certain nombre d'aménagements. Maintenant, encore une fois, certes, j'ai une approche un petit peu différente de la vôtre. Quand vous dites qu'ils font des travaux pour leur commerce, oui, ils font des travaux pour leur commerce parce que la maison des mégalithes, c'est un centre de profit pour le centre des monuments nationaux. Et d'ailleurs, un des centres de profit les plus importants de l'ensemble des monuments gérés par CMN. Hein, je crois que c'est le deuxième ou le troisième. Mais néanmoins, tous les travaux qu'ils réalisent pour l'accueil des visiteurs, puisque notre stratégie, c'est aussi d'aspirer ces 600 000 visiteurs dans le bourg et sur d'autres territoires de la commune, c'est aussi, en termes de prestations, de qualité d'accueil, c'est aussi quelque chose qui bénéficie à la commune. Je pense que la plupart de nos visiteurs n'ont aucune idée de savoir qui est propriétaire et qui a la compétence. Et les gens pensent que d'ailleurs souvent que les alignements, c'est la propriété communale. Or, c'est une propriété de l'État. Donc, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que quand un visiteur vient, il ne se dise pas, et je pense qu'à certains écarts, il peut se le dire aujourd'hui, parce qu'on en a parlé lors du dernier conseil municipal, il y a encore beaucoup à faire en termes de qualité d'accueil sur les monuments mégalithiques. C'est un dossier qui a pris beaucoup, beaucoup de retard. C'est un dossier complexe, il y a beaucoup d'acteurs, il y a la DRAC, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Hein. Monsieur Deriper le rappelait, y compris pour cet espace. Mais quand CMN investit, c'est pas que pour eux, c'est aussi pour la commune, c'est la qualité de l'accueil général. Et ma hantise, c'est que vraiment quelqu'un vienne à Carnac, d'abord qu'il ne visite que les alignements et qu'il n'aille pas ailleurs, et deuxième chose, qu'il se dise, l'accueil a été mauvais, ou je trouve que... Et encore une fois, à certains égards, on a encore beaucoup, beaucoup à faire et à progresser. Donc, je pense que vous le savez, Madame Le Golvan, on n'a pas eu toujours des relations, forcément... et je ne parle pas du récent passé, mais il n'y a eu pas toujours des relations très, très faciles avec CMN. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment une relation qui est assez fluide, et je pense que, on l'a vu pour ce qui est d'Anose, hein, je pense que ce que vous dites, ce que vous évoquez dans ce genre de projet pourra parfaitement se réaliser, à savoir qu'il participe directement à cet aménagement.
Juste... Pour terminer, quand on est sur des terrains qui sont un peu mixtes, que peut être le parking du Ménèque, on a une participation. Maintenant, je vous rappelle sur le parking du Ménèque, sur notre partie à nous, c'est la seule qui est valorisée aujourd'hui. Verset. Et d'un autre côté, le deal qu'il y a aussi avec le CMN, c'est qu'il nous loge au niveau de l'Office du tourisme dans ses bâtiments gratuitement. Après, qu'on soit d'accord ou pas, ça c'est autre chose. On est bien d'accord. Voilà. Non, mais tout à fait, mais ça n'empêche que... Voilà. Et donc, si vous avez connu à l'époque un administrateur, il y a quand même... Enfin, moi, j'en ai connu un il y a un peu plus de 10 ans quand j'étais président de l'office, où ça s'était quand même terminé, où c'était chacun ses soi et on n'avait aucune relation. Aujourd'hui, on en a. On a un système qui avance. Il n'est peut-être pas encore parfait, sans doute. Et il ne sera peut-être jamais parfait, d'ailleurs. C'est compliqué, hein. Mais au moins, on va dans le bon sens. Et on trouve un équilibre. Et à chaque fois, ce n'est pas au détriment de la commune. Et ça, c'est normal que vous inquiétez. À chaque fois, ce n'est jamais au détriment de la commune. Financière, hein. Je parle de financier, là. Là, c'est la casquette finance. Alors, il Il y a eu un moment où on les a sollicités, puisque, juste pour aller un peu plus loin dans le débat, mais Gérard, il peut reprendre aussi derrière, parce qu'il a suivi le dossier, c'est lui qui l'avait. On a eu un petit problème avec l'architecte du bâtiment de France pour une problématique de sortie ou de circulation, et que le CMN était prêt à nous donner accès par le biais de ces terrains, puisque l'ensemble des terrains, la parcelle 129 et celles qui sont après, appartiennent au CMN. Non mais...
Heureux, Madame Le Goldman, vous rappelez bien l'histoire des toilettes, hein, c'est encore heureux. Bah oui, encore heureux, mais c'est, ça ne coule pas forcément toujours de soi. Non, mais c'est là où je suis pas. Mais c'est là où je suis pas du tout d'accord avec votre approche, Madame Le Goldman. C'est pas CMN qui en bénéficiait, c'est les visiteurs qui, quand ils avaient envie de faire leurs besoins, avaient à disposition des toilettes. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas tellement que c'est pas les toilettes de CMN, c'est les toilettes qui permettent aux gens qui visitent le site d'aller se soulager quand ils ont envie de faire pipi. Donc c'est pas la commune, c'est pas CMN, c'est un service qu'on rend. Madame Le Goldman, sérieusement, vous croyez que CMN ne se préoccupe pas de l'accueil de ses visiteurs ? Ok, bon. On va s'arrêter là. En tout cas, moi, je me réjouis que ce projet avance, et je me réjouis surtout pour les riverains de la place Hillertissen, parce que, voilà, on en a beaucoup reçu avec Gérard, on en reçoit tous les étés, parce qu'il y a vraiment, je dirais, des nuisances à cet endroit-là. Et donc, je me réjouis qu'on puisse leur offrir la perspective de voir enfin ce problème réglé. Il n'est pas encore réglé, mais en tout cas, voilà, une petite lumière au bout du tunnel sous lequel passe le camping-car. Je vous propose de passer donc au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre cette acquisition ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Monsieur Servet, vous me l'aviez dit. Une abstention et donc le reste, unanimité ? Je vous remercie. On passe au rapport numéro 11, acquisition d'une parcelle appartenant à l'État au 74 rue de Corrigan. C'est Monsieur de Ripper qui avait fait une remarque d'ailleurs sur cette parcelle, je me souviens, puisque c'est la parcelle qui est au sud de la maison. Voilà, Monsieur de Ripper nous avait demandé il y a quelques moi, si nous envisagions d'acquérir la parcelle, et j'avais dit que oui, effectivement, nous avions eu la même idée, et que si l'État en était d'accord, nous allons faire une proposition. Et l'État a donc accepté cette proposition, et donc nous allons acquérir cette parcelle de 2325 m² pour la modique somme de 2325 €. Je laisse les plus matheux d'entre vous faire le calcul du prix au mètre carré. Et donc, c'est une très bonne chose, effectivement, puisque nous envisageons de transférer dans un premier temps Paysage de Mégalith, puis l'association qui sera amenée à gérer l'ensemble des sites mégalithiques quand ils seront inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, hein, un horizon qu'on espère évidemment le plus rapide possible. Cette parcelle, comme l'avait fait remarquer Monsieur de Ripper, était évidemment très intéressante pour des facilités d'accès, de parking. Et donc c'est pour ça que nous en portons acquéreur. Madame Le Goldman.
Quand on en avait parlé, c'était aussi de faire des parkings, puisque c'était l'idée hein, de pouvoir accueillir les visiteurs. Ça servira simplement au paysage et mégalithes ou dès l'été prochain, vous pourrez ouvrir
On n'ouvrira pas l'été prochain. Pour l'instant, il n'y a pas de projet précis. Hein. On acquiert le terrain, on verra. Ce sera déjà un terrain communal, mais je ne pense pas qu'on l'ouvrira en parking dès l'année prochaine. Enfin, peut-être. Mais en tout cas, je n'ai pas de nom, je n'ai pas une réponse définitive sur le sujet. Pour l'instant, c'est une acquisition d'opportunité parce que, vous voyez, la parcelle de la Maison Bleue, elle enclave évidemment de manière assez étroite le bâtiment et que ça nous donne un espace, que ce soit pour les visiteurs, une structure qui va être amenée à gérer l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO et surtout le respect du plan de gestion et les contrôles de l'UNESCO, c'est assez important. Donc voilà, on accueillera sans doute aussi des scientifiques, que ce soit au musée ou là. Donc, comme le faisait remarquer M. de Ripper il y a quelques mois, la logique voulait qu'on tente d'acquérir cette parcelle si l'État était vendeur. Pas de projet en particulier de parking, je dirais, de masse à cet endroit-là pour l'instant. Pas d'autres questions ? Monsieur Lourzic.
Alors, c'est une très bonne chose d'acquérir cette parcelle proche de la maison pour faire les parkings. Malheureusement, il me semble que l'accès de cette parcelle se fait sur la parcelle numéro 3. Il va falloir modifier donc l'entrée, là, ou alors je ne sais pas. Mais comme c'est dans la bosse, je ne sais pas, il y a le poste de relevage pour l'assainissement qui est là aussi, donc j'espère qu'il y aura de la place.
Ouais, pour moi, il y a de la place.
Mais... Il me semble que la parcelle 3, c'est un muret qui a le long, mais je me trompe peut-être.
Non. Elle est dedans. L'accès est dedans. Oui.
Juste pour faire un peu l'historique, la Maison Bleue, c'était les bureaux du CMN avec le parking qui était attenant. Le problème, c'est que c'était découpé en deux lots. Aujourd'hui, ils ont voulu, quand ils ont mis en vente, quand ils nous ont proposé la Maison Bleue, j'ai dit que ça nous a, effectivement, pour la commune, c'était intéressant puisque ça permettait de rester dans la zone mégalithique et pas de se retrouver avec un privé à cet endroit-là. Effectivement, il y avait un intérêt aussi pour pouvoir y mettre la future association dans le cadre de la gestion de l'UNESCO. Je vous rappelle, puisque je ne vous avais pas répondu à cette question-là à l'époque quand vous avez soulevé le prix d'acquisition, je vous rappelle une méthode de calcul qu'il y a dans la collectivité sur une base de 30 ans. Aujourd'hui, Paysage de Mégalith paye un loyer qui correspond largement, ce qu'on pourrait appeler un amortissement, je ne vais pas vous faire un cours, puisque le maire n'en veut plus, sur une base de 30 ans, ça couvre largement le montant d'acquisition. Donc c'est ça, je voulais juste vous tenir sur l'aspect financier de la chose, que je n'avais pas répondu dans les coûts, et... Les deux parcelles sont, c'était un ensemble, mais qui était divisé, et donc le CMN est obligé de les vendre en deux fois, c'est tout. Mais c'était dès le départ prévu.
Oui, mais la question que je posais, c'était pas à ce sujet. C'est simplement l'accès. L'accès de la parcelle numéro 2 et doit être un peu sur la 3. Voilà.
Parfait. Bon, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre cette acquisition ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Madame Robineau, un rapport très rapide sur le fait d'acter que c'est bien le Centre communal d'action sociale de Carnac qui procédera à la maison de Madame Carzéro.
Donc, je vous rappelle que par des... La commune avait accepté le legs de Madame Carzéro. Donc... au 8 septembre 2007, le conseil d'administration du CCS a donné l'autorisation à M. le maire de procéder à la vente de la maison. Le conseil de municipal aussi a donné son autorisation pour vendre cette maison. Depuis, normalement, c'était la commune qui devait faire les actes pour vendre cette maison. Depuis quelques temps, il y a eu des discussions au niveau du conseil d'administration. Et on a décidé de vendre cette maison avec les membres. Et nous, du coup, on a fait une procédure, on a mis des conditions d'attribution pour la maison avec une rédaction d'un règlement et qui a été approuvé par délibération du conseil d'administration du 14 décembre dernier, le septembre dernier. Je n'ai pas mes lunettes. Donc aussi, il est proposé aux membres du conseil d'administration de prendre acte que le CCAS de Carnac procédera à la vente de la maison située 38 avenue des Salines à Carnac.
Pas de questions ? Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Si, un vote. Oui, le prix est fixé. Enfin, le prix est fixé. 201 ? Non, mais c'est au conseil d'administration de CCS qui décide. Oui. Enfin, qui a décidé. On en a discuté la dernière fois.
Oui, mais il n'était pas là. Elle va l'avoir au compte rendu. Non.
Si, c'est de mémoire, c'est 200.
220.
J'allais dire 238 000, 234.
Non, c'est 200. Je ne l'ai pas. Comment ? Oui.
Ok, pas d'opposition à cette autorisation donnée au CCAS de vendre la maison ? Non, enfin, on prend acte.
Ouais, c'est juste un.
Je vous remercie. Monsieur Houdois, on passe au rapport suivant. Convention CAF Azur Forfait Passion avec la Caisse d'allocation familiale 2018-2021. Quesaco.
Alors, il s'agit d'autoriser la signature d'une convention donc, avec la Caisse d'allocation familiale afin que les familles qui ont des revenus modestes puissent bénéficier d'une aide de l'ordre de 45 euros. Pour pratiquer des activités à vocation sportive et culturelle proposées par la commune de Carnac, à savoir les ateliers découvertes. Et donc, c'est une convention qui est signée pour les années 2018 à 2021.
Pas de remarques, pas de vote contre. Unanimité, je vous remercie. Monsieur Chapelle, modification des tableaux des effectifs que vous avez d'ailleurs reçu dans votre rapport. Il s'agit de supprimer... On essaye d'être au plus proche de l'opérationnel.
Je vais parler fort. Il s'agit d'une réorganisation de modification du tableau des effectifs, suite à la réorganisation du service liée à la mise en disponibilité de l'attaché territorial principal pour une durée de 2 ans. Alors, ça a été présenté en comité technique le 14 septembre 2018. Et le comité technique s'est donc prononcé favorablement à la suppression de ce poste d'attaché territorial principal qui ne répond pas aux besoins de la collectivité actuellement.
Est-ce qu'il y a des remarques sur cette suppression de poste ?
Et il correspondait à qui ce poste ?
À l'ex-DGS.
Donc il avait été en fait qu'on avait prêté entre guillemets à Enbon pour 6 mois, c'est ça ?
Plumeur d'abord, Enbon ensuite.
Et donc ce poste n'existe plus.
Ce poste n'existe plus.
D'accord.
On propose de le supprimer.
D'accord. Et à fin décembre 2017, nous avions 2 postes d'attachés principaux. Et quand on regarde le tableau que vous nous fournissez, donc on en supprime un. Normalement, il devrait en rester un, il en reste 0.
Monsieur Charpentier ?
Pas passé au conseil municipal. Ah non. Depuis le début de l'année ?
Il a été supprimé de mémoire au moment où il a été supprimé en septembre 2017.
Bah, s'il est supprimé en septembre 2017, il fait pas partie du tableau des effectifs au 31-12.
Si, parce qu'il est supprimé à partir du 1er janvier.
C'était la décision en septembre 2017. Subtilité.
Bien tenté quand même, monsieur de Ripper.
C'est quand même difficile de suivre vos tableaux. Ah, ouais.
Monsieur de Ripper, monsieur de Ripper, c'est pas les tableaux de monsieur Charpentier qui sont difficiles à suivre. C'est déjà la procédure et en général la façon dont est organisé l'emploi, les grades dans la fonction publique territoriale, c'est une horreur. Et donc, je pense que là, je tiens à rendre hommage à Philippe Charpentier et à Delphine. D'ailleurs, on va vous proposer, puisqu'on en a parlé en comité technique, effectivement, c'est juste hyper complexe de s'y retrouver. La seule chose que je veux dire, c'est qu'on essaye d'être au plus proche. On avait quand même beaucoup de postes ouverts qui n'étaient pas occupés. On essaye aujourd'hui d'avoir une situation la plus proche possible de l'opérationnel. C'est-à-dire que quand un poste n'a pas vocation à perdurer, on le supprime, de manière à être plus proche de l'opérationnel. Et on a également, puisque effectivement, il n'y a pas que vous qui avez du mal à comprendre, hein, moi aussi, mais il n'y a aucune volonté ni de cacher quoi que ce soit. Enfin, de toute façon, cacher quelque chose dans ce domaine, monsieur De Ripper, vous savez très bien que c'est strictement impossible. Ce sont des données qui sont publiques. En revanche, je crois qu'on a, Philippe, je parle sous votre contrôle, on a un petit projet de présentation plus compréhensible, à la fois pour les agents en comité technique et pour le conseil municipal. Donc je ne désespère pas que l'année prochaine, on ait des trucs, on ait des tableaux un peu plus faciles à comprendre. Voilà. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Chapelle, le fabuleux RIFSEP, épisode 322. Si quelqu'un a compris quelque chose au RIFSEP.
Alors, comme vous savez, le RIFSEP, à chaque fois, il y a des décrets qui sont... Comme vous le savez, ce RIFSEP se met en place petit à petit. Je pense qu'on en aura encore, je ne sais pas, pour un an, deux ans, trois ans, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une modification permanente et qui demande à chaque fois des ajustements. Alors, il s'agit également de rapprocher la dénomination de l'agent avec sa fonction réelle, autant que possible. Donc, on essaye de préciser au travers des groupes ou des sous-groupes la dénomination qui correspond à la fonction réelle de l'agent. Voilà, ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément qui a été voté également en comité technique en 2018, c'était au mois du 23 août, c'était la diminution du plafond du CIA, vous savez, le complément indemnitaire annuel pour les groupes 1, 2 et 3A.
Il y a des questions sur cette... Monsieur De Ripper, je suis sûr qu'il, lui, y comprend, mais c'est quand même excessivement complexe. Et, enfin, au regard de la façon, effectivement, dont le droit du travail dans le privé, c'est effectivement très complexe.
Donc, vous avez à la page suivante les groupes et les sous-groupes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Il n'y a pas de question. Est-ce qu'il y a des votes contre cette modification ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Il n'y a pas de questions orales, pas de questions diverses. Le conseil municipal est clos. Je vous remercie. On se retrouve probablement encore un ou deux conseils avant la fin de l'année, Madame Michard, hein, probablement. Encore un ou deux conseils avant la fin de l'année, probablement. Bonne soirée, bon week-end.